Vous écoutez, on lit pour vous.
Inspirante sérénité et générosité devant la mort. Un texte de Boucard Diouf paru le 16 novembre 2024 dans La Presse. Cette question, on l'entend tous, mais elle est sans réponse, car on ne sait pas quand ni comment arrivera notre propre fin. Un biologiste comparait l'existence humaine à une promenade sur un terrain où il pleut des briques, et la probabilité d'être tué par l'une d'elles est présente à tout âge. J'ajouterai à cette image déjà fataliste que lorsqu'on vieillit, ces briques paraissent prendre du volume alors que notre corps s'élargit. Aussi, la probabilité d'en recevoir une tonne sur le ciboulot s'accroît. Si vieillir donne la frousse à beaucoup d'entre nous, mourir trop tôt a toujours provoqué un sentiment de grande injustice existentielle. C'est ce qui est arrivé à François Desrochers, dont je salue le départ dans ce texte. En fait, François a été condamné par le diagnostic et l'évolution rapide d'une maladie neurodégénérative. Voyant son état se détériorer de façon fulgurante et irréversible, avec le soutien de sa famille, il a choisi de tirer sa révérence en utilisant l'aide médicale à mourir. Permettez-moi de remercier ici Véronique Yvon, dont l'engagement au service du bien commun a donné au Québec cette disposition progressiste qui permet de choisir librement de partir lorsqu'on n'a qu'une vie de grabataire en souffrance comme unique perspective. François était un président d'entreprise et un sportif qui courait des demi-marathons. Puis, en 2021, croyant son système respiratoire attaqué par la COVID-19, il est allé à l'hôpital. Pas de traces de coronavirus. À la place, on lui a plutôt diagnostiqué une affection neurodégénérative et handicapante, la sclérose latérale amyotrophique ou SLA. Je ne veux pas entrer dans les détails des symptômes de cette horrible maladie ou de l'état de santé de François quand on s'est rencontrés, car c'est surtout la sérénité de ce gars devant la mort qui m'a profondément touché. C'est Geneviève Desrochers, sa grande sœur, qui m'a approché pour rencontrer François. Ma mission? Aller sonner à sa maison, 4 jours avant son départ, pour lui remettre un passeport pour le grand voyage. Dans ce document imprimé, sa famille avait partagé avec lui des anecdotes, des poèmes sur le sens de la vie, mais aussi des citations de Nelson Mandela et de Churchill, deux humains qu'il appréciait particulièrement. Le texte contenait aussi beaucoup de passages et de photos humoristiques, car François aimait rire et faire rire. Après la livraison, je devais rester quelques minutes avec lui et sa conjointe, Joanne. J'ai fini par passer un long moment avec eux qui m'a fait beaucoup de bien. Je ne connais pas la vie qu'avait menée François, mais j'ai découvert un homme qui entretenait une connexion véritable avec la nature, un sceptique qui avançait en paix vers la fin, conscient que la Terre est un grand centre de recyclage où la mort et la vie s'entretiennent mutuellement. La mort est l'aînée, la vie sa cadette. Nous, humains, avons tort d'opposer la mort à la vie, disait mon grand-père. C'est pour ça que j'aime l'expression « rendre son dernier souffle ». Je vois presque une certaine complémentarité dans le fait que la nature prend le dernier souffle de celui qui part pour en faire le premier du bébé qui arrive. Ajoutons qu'après le dernier souffle comme avant le premier, personne n'a conscience de ce qui se passe. Autrement dit, la vie est une course où la nature a effacé de notre conscience l'entrée et la sortie de piste. François et moi avons partagé des regards croisés sur la conscience de la mort qui squatte le gros cerveau de Sapiens et génère l'angoisse humaine face à cette inévitable finitude. La seule fois où je l'ai senti secoué par son choix, c'est lorsque nous avons parlé de culpabilité. Vous savez, ce sentiment que ceux qui sont appelés éprouvent devant leur famille qu'ils se préparent à laisser dans le deuil et la souffrance émotionnelle. Quand on a abordé le sujet, sa femme, ébranlée, l'a pris dans ses bras et m'a dit que c'était le seul problème qui le peinait énormément dans son choix. Cependant, le calme est revenu rapidement et nous avons parlé d'écologie, d'environnement, de Darwin et d'évolution dans la joie. À quelques jours de son départ, François taquinait encore la mort avec l'humour. Il m'a fait beaucoup rire en disant qu'il avait choisi le vendredi 8 novembre pour partir, mais qu'advenant l'élection de Donald Trump, il pensait demander à son médecin attitré d'avancer son départ de quelques jours. L'humour nous offre des façons de sublimer la condition humaine et peut-être même d'expérimenter la mort en douceur avant le grand départ. En effet, un profond éclat de rire peut provoquer une coupure du souffle et une brève perte de contact avec la réalité semblable à une petite mort. Cette façon de mourir de rire est une bonne thérapie pour la santé physique et mentale. Je nous souhaite d'avoir la sérénité de François qui, 4 jours avant sa mort programmée, riait et faisait encore rire. Pas seulement la sérénité, mais aussi la générosité, car François n'est pas complètement parti. Il a permis à d'autres de prolonger leur aventure dans la biosphère en donnant ses organes encore fonctionnels avant de tirer sa révérence. Si vous n'avez pas encore signé votre carte de don d'organes, sachez que ce très noble geste altruiste est à votre portée. Pour terminer, François, comme tu m'as promis de m'envoyer un message pour me dire exactement ce qui se passe de l'autre bord, je t'annonce ici que j'ai suffisamment d'espace dans mon iCloud pour recevoir des photos et des vidéos en provenance de ce ciel. Si le sceptique et le progressiste en toi découvrent des surprises désagréablement assises à gauche, prière de m'en avertir pour que je puisse revenir sur le droit chemin et améliorer mon sort post-mortem. En attendant, je te remercie pour la rencontre inspirante et je réitère mes condoléances à toute ta famille et tes amis. C'était « Inspirante sérénité et générosité devant la mort », un texte de Boukhar Diouf paru le 16 novembre 2024 dans La Presse.
Une thérapie de groupe intensive pour surmonter son anxiété, un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 16 novembre 2024 dans La Presse. Lundi, 8 patients seront reçus dans un local de l'Institut Allen Memorial, en bordure du Mont-Royal. Ils y passeront la semaine, de 9h à 17h, sous la supervision de 5 thérapeutes. Leur programme alternera entre des séances de groupe et des consultations individuelles. J'en suis à un point où j'ai besoin de quelque chose qui va me pousser à sortir de chez moi. Je suis vraiment nerveuse, mais je ne veux pas laisser la peur m'envahir. Je veux le faire, dit Sarah. Ce projet pilote du Centre universitaire de santé McGill, CUSM, inspiré d'initiatives déjà mises en place aux États-Unis et en Norvège, s'adresse aux patients souffrant de TOC sévères. Ce sont des patients réfractaires aux autres traitements, dit la psychologue de la clinique des troubles de l'humeur et de l'anxiété du CUSM, Catherine Ouellette-Courtois. Un TOC est un trouble caractérisé par des pensées intrusives, appelées obsessions, et des comportements répétitifs, appelés compulsions, que la personne accomplit pour apaiser son anxiété. La plupart du temps, les patients vont être conscients que leurs obsessions n'ont pas de sens, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'y croire et d'y adhérer. Environ 1 à 2 % de la population est affectée par les TOC. On peut estimer qu'il y a entre 80 000 et 170 000 personnes qui pourraient en être atteintes au Québec, illustre la psychologue. Les participants du programme présentent différents types de TOC. Certains redoutent la contamination, d'autres ont des pensées superstitieuses, craignant qu'un événement grave n'arrive à un proche si le rituel n'est pas réalisé. D'autres ont un TOC de symétrie, ce qui les pousse à réorganiser les objets de façon spécifique, ou encore un TOC de vérification, comme s'assurer à plusieurs reprises que la porte est bien verrouillée. Je figeais. Sarah est hantée par la peur de causer du tort aux autres sans le vouloir. Sa crainte a débuté en 2018, lorsqu'elle était assistante dans une pharmacie. J'étais chargée de compter les pilules et j'étais vraiment stressée par ce travail. Est-ce que j'ai distribué la bonne chose? Est-ce que cela pourrait nuire à quelqu'un? Puis, avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19, son état s'est aggravé. J'entendais aux nouvelles qu'il fallait faire attention aux autres, de ne pas sortir si on avait une légère toux. J'avais très peur de sortir et de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à quelqu'un. Elle a cessé de sortir, elle restait chez elle et ne quittait la maison que si son mari l'accompagnait. S'il me laissait seule une seconde, je figeais. Suis-je en train de répandre des germes? Est-ce que je vais faire du mal à quelqu'un avec mes germes? Se remémore-t-elle. Depuis 2 ans, elle subit une thérapie individuelle chaque semaine, ce qui a permis d'améliorer son état. Aujourd'hui, elle parvient à sortir, mais elle n'est toujours pas prête à retourner travailler ni à fréquenter certains lieux publics. J'ai raté tellement d'années d'expérience. Les patients qui participeront au programme, dans la vingtaine à la cinquantaine, présentent un état semblable à celui de Sarah. Ils sont souvent en arrêt de travail ou n'ont jamais été capables d'entrer sur le marché du travail, dit Mme Ouellette Courtois. Leur TOC peut également nuire à leur capacité d'être dans une relation amoureuse. Chaque participant a préparé une liste d'une vingtaine d'expositions qu'il souhaite effectuer pendant la semaine de thérapie. Les participants devront en accomplir 4 par jour, avec ou sans l'accompagnement d'un thérapeute. Ils vont pouvoir piger dans leur liste et choisir ce qu'ils se sentent à l'aise de faire. Ils ne seront jamais obligés de faire une exposition, précise la psychologue. Pour Sarah, les objectifs sont, entre autres, d'utiliser des toilettes publiques, de faire du magasinage et de s'approcher d'un bâtiment de l'Université McGill. J'ai raté tellement d'années d'expérience. Je veux retourner à l'école et faire mon doctorat. J'espère qu'on va constater que c'est bénéfique pour les gens d'avoir une formule intensifiée de thérapie, dit Mme Ouellette Courtois. La thérapie demeure toutefois un projet pilote et des ajustements pourraient être nécessaires. Peut-être qu'on va se rendre compte que 2 semaines de thérapie intensive aurait été plus aidante, dit la psychologue. 1 mois après le programme, les participants se retrouveront en groupe pour évaluer si leurs progrès ont été maintenus ou s'il y a eu une rechute. Sarah est fébrile. J'ai hâte de voir ce que ça va m'apporter. C'était une thérapie de groupe intensive pour surmonter son anxiété, un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 16 novembre 2024 dans la presse.
Gérontopôle, vers la participation sociale des aînés. Un texte d'Emmanuel Leblon, paru le 20 novembre 2024 dans l'Express. Rassembler une variété de partenaires pour le mieux-être de la population vieillissante. Telle est la mission du Gérontopôle, une initiative unique et novatrice qui a été mise sur pied par les acteurs de la région. Pas moins de 3 années de travail se cachent derrière la concrétisation de ce projet d'envergure. Le Centre collégial d'expertise en gérontologie, CCEG, du Cégep Drummond, la ville de Drummondville, Drummond Économique et la MRC de Drummond ont uni leurs forces pour mettre en place cette initiative. On est le premier gérontopôle au Québec, mais aussi au niveau du Canada, s'est exclamée Marie-Ève Bédard, directrice du CCEG, à l'occasion du lancement de ce pôle d'innovation qui est au bénéfice de la population vieillissante. L'ensemble des partenaires régionaux avait une volonté commune, celle de valoriser la place et la contribution des aînés dans toutes les facettes de la société. il y avait un témoignage de refus de considérer le vieillissement uniquement en termes de défis, uniquement en termes d'enjeux, uniquement en termes de vision négative. C'est souvent un discours qu'on entend par rapport au vieillissement. Leur volonté était de voir le vieillissement dans ce qu'il apporte de positif, comme les enrichissements, les bénéfices et les opportunités, a souligné la responsable du gérontopôle, Roxane Leboeuf. Souvent, quand on parle de personnes aînées, on va penser aux gens qui sont en perte d'autonomie ou en fin de vie, mais il ne faut pas oublier que 91% des gens vivent à domicile de manière autonome ou semi-autonome. Ils demeurent actifs et engagés de différentes façons. Ils peuvent être des acteurs sociaux dans différentes sphères, a-t-elle complété. En parallèle, le vieillissement vient avec son lot de défis, tels que l'âgisme, les difficultés d'embauche ou de rétention du personnel expérimenté, la fracture technologique, l'isolement ainsi que l'exclusion sociale. Démarche collaborative. C'est là que le gérontopôle entre en jeu. Cette initiative favorise le réseautage et le maillage entre les entreprises, les organismes publics, ainsi que les organisations communautaires pour répondre aux besoins de la population du troisième âge. Tous les acteurs impliqués, de près ou de loin par le vieillissement, travailleront ensemble pour contribuer au mieux-être des aînés. Pour ce faire, le gérontopôle a élaboré un plan d'une durée de 3 ans. Dans un premier temps, on va faire une bonne cartographie des organismes et des entreprises de la région. On veut aussi identifier les besoins spécifiques des aînés. Quelles sont les opportunités qui devraient être priorisées? Se questionne Roxane Leboeuf. La première année sera consacrée à la création d'une communauté au sein du gérontopôle afin de rassembler plusieurs acteurs autour de la thématique du vieillissement. Formation, webinaires, activités de réseautage. La population aura accès à une programmation variée. Les années suivantes seront dédiées à l'accompagnement individualisé des différentes organisations. Idées novatrices. Concrètement, quelles sont les idées novatrices qui voient le jour grâce au gérontopôle? Une entreprise pourrait nous approcher pour améliorer des services en ligne. A-t-elle pensé à la portion de clientèle qui est plus âgée et qui pourrait vivre des besoins différents du reste de sa clientèle? On a des gens au CCEG qui travaillent sur différents projets de recherche qui visent à améliorer et à travailler en partenariat avec des entreprises privées pour améliorer leurs services en ligne, explique la responsable. Par exemple, une entreprise contacterait le gérontopôle dans le but de développer du mobilier adapté, comme une vanité de salle de bain. On pourrait l'accompagner avec une équipe de recherche dans le but de faire une évaluation des besoins et tester la vanité auprès de groupes d'aînés pour voir comment on peut améliorer le produit. Cette collaboration dynamique permet de mettre en place des produits et des services basés sur des données probantes et en concertation avec les acteurs du milieu. Retombées diversifiées. Une telle initiative apporte toutes sortes de retombées dans la communauté, soutient Roxane Leboeuf. Il y a une participation sociale accrue des personnes aînées. Aussi, le fait d'avoir des gens qui s'investissent avec les entreprises. Il va avoir une retombée économique très intéressante pour la région. Le gérontopôle représente une solution à la pénurie de main-d'œuvre, indique la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste. Ce sont des gens qui ont une expertise. Ils ont du temps. Ils ont encore envie de relever des défis, peut-être pas avec les mêmes responsabilités avec la fin de carrière. Il y a quelque chose de satisfaisant à léguer son savoir aux plus jeunes générations. Tout ça est un amalgame intéressant qui va faire en sorte qu'ils vont nous aider à lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Cette dernière se réjouit d'ailleurs du lancement de cette initiative qui représente l'un de ses engagements électoraux. La ville de Drummondville offre d'ailleurs un soutien financier de 180 000 $ sur 3 ans. Ce n'est pas tout. À long terme, le gérontopôle a une visée nationale. on veut travailler avec des partenaires qui proviennent d'autres régions, qui ont des mandats provinciaux, dit Roxane Leboeuf. C'était Gérontopôle, vers la participation sociale des aînés, un texte d'Emmanuel Leblon paru le 20 novembre 2024 dans L'Express.
Gros cerveau, grosse dépense, un texte de l'agence Science Presse, paru le 19 novembre 2024, dans Agence Science Presse. De gros cerveau, ça s'est avéré être un avantage pour se distinguer de nos cousins primates. Mais c'est venu avec un coût élevé en matière de dépenses énergétiques. Ce n'est pas un mystère que certains de nos neurones sont particulièrement actifs. Ils produisent de la dopamine qui contribue à des tâches aussi diverses que l'apprentissage, la recherche de plaisir ou la marche. Des taux équilibrés de dopamine sont essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau. Mais qu'est-ce qui détermine cette production? Dans une recherche pré-publiée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été révisée par d'autres experts, une équipe de biologistes cellulaires, de généticiens et de neurologues s'est penchée sur ces neurones. Les chercheurs ont identifié des gènes qui, affirme-t-il, explique comment le cerveau gère cette lourde tâche qui est de se maintenir lui-même en bon ordre de marche. Par rapport aux neurones producteurs de dopamine chez les chimpanzés et les macaques, les neurones des humains expriment davantage de gènes qui moussent l'activité d'antioxydants. Pourquoi des antioxydants? Parce que chez un être vivant, c'est ce qui sert à limiter les dommages aux cellules, dommages causés par tout processus intense de production d'énergie, comme par exemple la production de dopamine. De fait, notre cerveau est devenu particulièrement gourmand en énergie. Bien qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle, il consomme environ 20% de l'énergie produite par le corps au repos. S'il s'agit bel et bien, comme le soupçonnent ces chercheurs, d'un mécanisme de protection qui se serait développé dans nos cerveaux au cours des derniers millions d'années, pourrait-il servir à prévenir les maladies dégénératives comme l'Alzheimer? C'est la question qui se pose inévitablement devant une telle recherche. Tout comme se pose la question de savoir si ces mécanismes sont présents de la même façon chez tous les humains ou si leur absence serait ce qui rend certaines personnes plus à risque de souffrir d'une de ces maladies. C'était « Gros cerveau, grosse dépense », un texte de l'agence Science Presse paru le 19 novembre 2024 dans Agence Science Presse.
Wentworth North, améliorer le temps de réponse aux aînés. Un texte de Luc Robert paru le 12 novembre 2024 dans le journal L'Accès. La mairesse de Wentworth North, Mme Danielle Desjardins, espère que des assouplissements aux règles en vigueur permettront d'aider les personnes âgées qui vivent seules à leur domicile sur le territoire. Elle déplore que les aînés sont souvent laissés à eux-mêmes dans des situations d'urgence médicale. Souvent, le système n'aide pas les retraités isolés, seuls à leur maison. Avant, nous comptions sur un service téléphonique pour appeler à intervalles réguliers les personnes vulnérables. Mais depuis quelque temps, le CIS interdit la transmission d'informations nominales au sujet des personnes âgées. On ne peut donc plus préparer des listes et contacter les gens seuls lors de tempêtes ou autres situations. Il reste quoi? Les services téléphoniques payants avec un bouton d'urgence à actionner en situation d'urgence. C'est à peu près tout, si tu n'as pas de famille pour venir te voir régulièrement, a-t-elle constaté. C'est qu'en région rurale et isolée, comme c'est le cas dans l'ouest de la MRC des Pays d'en haut, il n'est pas toujours possible d'intervenir rapidement en saison hivernale. Le service des premiers répondants, c'est extra pour la population, mais encore faut-il qu'ils soient dans le coin. Je suggère souvent aux voisins immédiats d'aller faire un tour à la maison d'à côté pour voir si personne ne se trouve en détresse, surtout chez les personnes seules. Le problème, c'est que souvent, en semaine, elles se retrouvent seules, car les voisins ne sont souvent à leur chalet que les fins de semaine. Si quelqu'un chute ou se trouve mal en point, personne ne le sait avant longtemps. C'est déplorable, a-t-elle ajouté. Une autre partie du problème concerne les aînés eux-mêmes, qui refusent souvent de s'identifier comme personnes vulnérables auprès des autorités. Les personnes âgées sont fières et ne veulent pas parler de leur vulnérabilité. D'autres évitent de dire qu'ils vivent sans colocataire, de peur de recevoir les visites de personnes malveillantes et de se faire dévaliser. Il faut que la nouvelle superstructure à établir en santé tienne compte des aînés isolés. Il faut les joindre pour savoir comment ils vont. Service lointain. Pour l'ancien conseiller municipal David Zgodzinski, la localisation rurale de Wentworth Nord n'aide pas non plus à déployer les services. Récemment, une dame est tombée au bas d'une échelle et a eu besoin de soins à une jambe et à une hanche. Un de ses voisins est un pompier volontaire qui possède la formation de premier répondant. Mais comme tout le monde, il a des horaires spécifiques et se trouvait à l'extérieur de la municipalité lors de l'événement. Son épouse l'a joint et il est venu stabiliser la blessée jusqu'au transport à l'hôpital. Mais en raison de plusieurs facteurs, l'ambulance a seulement pu venir au bout de 2 heures. Ça aurait pu être fatal. Heureusement que le sapeur a été un bon samaritain, a-t-il louangé. Quant aux règles du 6, le résident du secteur Montfort ne se berce pas d'illusions. Je comprends le gouvernement de vouloir restreindre l'utilisation des données des personnes âgées et leur transmission en ces années de multiplication des fraudes. Mais dans le cas des aînés, il leur faudra trouver une solution pour qu'ils soient appelés ou visités. Déjà que c'est difficile de se rendre jusqu'à nous. Et je suis conscient que ça coûte cher. En même temps, s'il t'arrive quelque chose de grave, il faut être chanceux pour qu'un premier répondant et ou un transport médical soit disponible, a achevé M. Zgodzinski. C'était Wentworth Nord, améliorer le temps de réponse aux aînés. Un texte de Luc Robert paru le 12 novembre 2024 dans le journal L'Accès.